Au téléphone sonne ce soir, comment lutter contre les torrents de haine qui se déversent quotidiennement sur Internet? L'Assemblée nationale a adopté tout à l'heure en première lecture, à une très large majorité, la proposition de loi de la députée En Marche Laetitia Avia. 434 voix pour, 33 contre, 69 abstentions. Le texte sera soumis au Sénat à la rentrée. Objectif de cette proposition de loi, lutter contre la haine en ligne, plus facile à dire qu'à faire. Car si sur le principe, tout le monde est d'accord, c'est sur les moyens d'y parvenir que ça se complique. Et cela, dès le début du processus, quand il s'agit tout d'abord de définir les contenus concernés, on va en parler. Ensuite, qui pour réguler? Et là aussi, à l'Assemblée et en dehors, on a entendu les critiques sur le fait de laisser les opérateurs à la fois juges et partis, ce qui dans un état de droit n'est pas un détail, surtout lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression. Ajoutons à cela la complexité du sujet quand il y a par exemple des images diffusées en direct, comme lors de l'attentat de Christchurch. Surtout que la loi qui nous intéresse s'arrête aux frontières de la France alors que la toile est bien plus large. À nos côtés ce soir, pour tenter d'y voir plus clair dans tout cela, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être là. Maître Éric Morin, qui en tant qu'avocat a eu à défendre notamment des personnes victimes de cyberharcèlement. Bonsoir Maître Morin.
Bonsoir.
Merci d'être là également. Avec nous aussi, Marc Ress. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de Next Impact. Et merci aussi à vous d'être ici pour nous joindre. Le numéro est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et on commence avec un premier appel, celui de Pierre. Il est en Bretagne, Québriac, près de Saint-Malo, me dit-on. C'est bien ça, Pierre?
Oui, tout à fait.
Merci, Pierre, d'être ici. On vous écoute.
Oui, donc c'est un témoignage et en même temps, c'est une question. Il y a un an maintenant, ou un an et demi, il y a un site, hélas, bien connu d'extrême droite bretonne qui s'amuse, si je peux me permettre d'employer le mot, s'amuser, afficher des gens qui aident les migrants, ce qui est mon cas puisque j'étais vice-président ou je suis vice-président d'une association de défense de migrants, et qui appelle à la haine et qui appelait au meurtre sur toute une liste de personnes que ce site a affiché. Donc nous, on a fait condamner le rédacteur en chef de ce site, hélas, comme je le disais, bien connu, au tribunal. Faut savoir que la personne qui a été condamnée, elle est en fuite à l'étranger, qu'elle a 10 ans de prison ferme qui l'attendent en France s'il revient, puisque c'est un multirécidiviste condamné pour apologie de crime, contestation de crime contre l'humanité, insulte raciste, provocation à la haine raciale, etc. Et que quand on s'est retrouvé devant le tribunal de Rennes, donc il n'était pas là, nous ce qu'on demandait, c'était certes une condamnation, mais avant tout que le site internet soit fermé. Et le tribunal nous a répondu, à notre grand étonnement, hein, on était une quinzaine ou vingtaine à porter plainte, de dire, ben oui, on va condamner la personne, mais on peut rien faire sur le site sur ce site internet, on ne peut pas le fermer, il est hébergé à l'étranger, ben voilà, c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve encore avec ma tronche sur ce site-là, avec l'appel au meurtre, l'appel à la haine, etc. Donc ma question, elle est simple. Donc déjà, cette personne a été condamnée à un mandat d'arrêt. Le gouvernement français n'a pas l'air d'être si pressé que ça, de faire un peu pression sur le Japon pour que cette personne soit rapatriée en France. Mais passons, est-ce que cette loi va enfin permettre la fermeture des sites de ce type de sites d'extrême droite néo-nazis où on parle du bon docteur Goebbels, etc. Sinon, c'est une loi qui ne servira à rien. Et comment on va pouvoir faire pour que ce site multi-condamné, multi-récidiviste soit enfin fermé?
Merci beaucoup Pierre pour cette question. Cédric O, secrétaire d'État au numérique, est-ce que la loi qui a été adoptée en première lecture cet après-midi à l'Assemblée répond à la question de Pierre?
Alors, la loi qu'on a adoptée à l'Assemblée, elle se focalise pas sur ce problème-là, elle se focalise plus largement sur les injures, menaces de mort, etc. que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Et pour le dire tout de suite, elle pose un premier bloc qui essaye de faire respecter la loi en ligne comme hors ligne, mais elle ne s'adresse pas à ceux que j'appelle les professionnels du harcèlement ou des menaces de mort ou des déclarations antisémites qu'on connaît bien, et j'imagine que la personne dont l'auditeur parle est bien connue des services. Cela, quelque part, il relève du droit commun et d'un certain nombre de choses qui sont spécifiques. Vous avez, si à partir du moment où la personne part à l'étranger, etc., ça rentre dans le cadre les communs du droit, des coopérations entre systèmes judiciaires, etc., etc. Là où je suis un tout petit peu surpris par la décision du tribunal, mais je ne la connais pas dans le détail, c'est que certes, si c'est hébergé à l'étranger, vous ne pouvez pas forcément atteindre l'hébergeur, mais normalement, vous pouvez demander au fournisseur d'accès de bloquer le site, et dès lors que c'est caractérisé comme un site raciste, antisémite, enfin je ne sais pas, en tout cas, qui contrevient à la loi, le tribunal aurait pu demander que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent le site. Je suis un peu gêné pour vous répondre parce que je ne connais pas le détail de la chose. Nous, on a introduit dans la loi quelque chose de spécifique qui est pour... Souvent, en fait, vous avez un site qui est sur une adresse... On prend par exemple de Démocratie Participative, qui est un site qui a posé problème, qui a été condamné et qui a été bloqué. Mais il est revenu... Il était sur démocratieparticipative.fr, j'imagine. Je crois qu'il est revenu sur démocratieparticipative.net. Et nous, on a fait en sorte qu'on puisse... déréférencer tout de suite ces copies, ce qu'on appelle des sites miroirs. Mais là, la question qui est posée par l'auditeur, c'est la première décision. Et je suis un peu étonné par la décision du tribunal, mais je ne la connais pas suffisamment en détail pour rapporter une réponse.
On va essayer de répondre quand même à Pierre de Bretagne, Marc Ress, rédacteur en chef de Next Impact.
Oui, tout à fait. Enfin, pour le rassurer, je peux lui dire que c'est de longue date que la jurisprudence a pris des décisions de blocage à l'encontre des sites, ou bien parce que ceux-ci abritaient des contenus contrefaisants, des films pirates ou autres, ou bien parce que ceux-ci abritaient des contenus injurieux, niant les crimes contre l'humanité, etc. On a eu le cas, effectivement, de démocratie participative qui a été tranché par la justice, et les fournisseurs d'accès se sont vus ordonner le blocage de cette adresse.
Maître Morin, il avait l'air de dire, Pierre, que la justice n'était pas très pressée.
Bon, c'est pas qu'elle est très pressée. Il doit y avoir des accords bilatéraux entre la France et le Japon. Et j'imagine qu'il y a une notice Interpol qui a été lancée contre cette personne. Après, faut pouvoir l'exécuter. Et là encore, je connais pas le détail. Ça pose quand même le problème de l'adéquation de la formation des juges et même en amont des policiers et des gendarmes face à ce type de problème. On a fait des efforts depuis des dizaines d'années, mais n'empêche qu'il y a toujours cette idée sous-jacente dans certains tribunaux où voilà, on peut pas faire grand-chose contre Internet. Alors on va vous donner des dommages et intérêts, on va condamner la personne, mais finalement dans la technique, on peine à trouver des solutions. Il y a certaines chambres qui sont spécialisées, mais pas partout en France, et il faut une vraie formation des magistrats de ce point de vue-là.
Cédric O.
Oui, ce que Maître Morin souligne extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, un des principaux problèmes dans la lutte contre la haine sur Internet, c'est le processus judiciaire et policier. C'est-à-dire qu'il arrive même que certaines personnes aillent porter plainte parce qu'elles ont été menacées de mort, insultées sur Internet, et que les policiers ne soient pas au courant de la loi et qu'ils disent « non mais c'est pas très grave, de toute façon on peut rien faire ». C'est aussi l'objectif de cette loi, c'est de mettre ce sujet à l'agenda, de se rendre compte qu'on a un problème, je dis souvent, de santé publique, puisque on connaît tous quelqu'un qui a été cyberharcelé ou qui a été victime de haine sur Internet. Et puis que pour tout le monde, pour les parents aussi, trop souvent les parents haussent un peu les épaules, les éducateurs, les professeurs, on met ce sujet à l'agenda pour dire « il y a un gros problème, il y a des choses qui existent dans la loi ». Elles doivent être appliquées et on doit faire en sorte de se mobiliser tous pour lutter contre ce fléau.
Ça veut dire que vous allez essayer de former les professionnels de la police, de la justice. Il va y avoir quoi là pour que ça change concrètement?
Déjà, le fait qu'on passe une nouvelle loi permet de faire en sorte que tout le monde s'en rende compte. Il va y avoir, je pense, une sensibilisation particulière des personnels de police. On centralise un certain nombre de procédures liées au numérique dans un parquet à Paris. Ce qui permettra de répondre en partie à la question que vous avez posée, c'est que trop souvent ça arrive auprès de tribunaux qui sont peu habitués, qui ont un problème sur Internet par an ou très peu par an, et qui donc ont peu la pratique de ces sujets-là, ont une méconnaissance de ce qui est des pratiques en vigueur et de ce qu'ils peuvent faire, des relations avec les plateformes, les hébergeurs, etc. Donc on va centraliser ces procédures auprès d'un parquet qui lui aura l'habitude et l'habitude de l'utilisation des outils pour être plus efficace et pouvoir traiter en partie la masse des problèmes.
Un parquet centralisé vers lequel tout va remonter, c'est ça que vous nous annoncez aujourd'hui ?
Exactement. Mais ça a été annoncé par Nicole Belloubet il y a quelques jours.
Parce qu'on avait cru comprendre que ce n'était pas forcément centralisé. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Maître Morin, bonne chose ou pas?
La mode est au parquet national. On a créé un procureur national antiterroriste. Moi, je pense à Paul ou à Marion qui habitent à Carcassonne, qui habitent à Saverne, qui habitent à Douai, qui vont déjà avoir le courage de franchir les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Ça existe déjà pour ceux qui veulent porter plainte pour des agressions physiques ou pour des agressions sexuelles. Alors imaginez, lorsque vous franchissez la porte de ces enquêteurs, ils vous disent « j'ai été cyberharcelé ». De la même manière qu'on vous dit « vous aviez qu'à pas vous promener toute seule le soir », on va vous dire « fermez votre ordinateur » et puis vous verrez, ça va passer. Et là, on va leur dire « tout ça va être envoyé à Paris ». C'est bien d'avoir des juges spécialisés. Moi, j'aurais préféré, on verra ce que donneront le décret, puisque c'est renvoyé en décret dans le projet de loi qui n'est pas encore définitif, mais je pense qu'il faudrait créer ce qu'on appelle des JIRS, c'est-à-dire des juridictions interrégionales, voilà, et qu'il y ait, pour garder cette proximité. Voilà. Sinon, on va ajouter du virtuel au virtuel, c'est-à-dire que pour Paul ou Marion, à l'autre bout de la France, eh ben, on leur dira votre dossier, il est traité à Paris, et en plus, il sera jugé à Paris, donc vous allez avoir les victimes qui vont devoir se déplacer pour aller à l'audience. Il faut penser au bout de la chaîne pénale.
Comme Pierre, qui est en
Alors c'est très bien qu'il y ait une volonté politique. Et moi, je m'en réjouis parce que il peut pas y avoir un bout de chaîne pénale qui fonctionne bien s'il n'y a pas de volonté politique ab initio. Mais n'oublions pas ce bout de chaîne pénale.
Marc Reiss.
Moi, ces sujets-là me questionnent un petit peu sur le sentiment d'impunité. S'il y a un sentiment d'impunité aussi sur Internet, est-ce que ça serait pas lié peut-être tout simplement à une question de moyens? Il n'y a pas longtemps, à l'occasion du grand débat, je crois que les services de Bercy ont publié un document qui révélait que pour 1000 euros de dépenses publiques, tout en bas de la chaîne, tout en bas de la liste, il y avait 4 euros qui allaient à la justice. Voilà. Et ce chiffre parle de lui-même.
C'est vrai, Cédric O, que la justice crie misère. Hein, et on veut bien croire que là, sur ce dossier-là, il y aura des moyens, mais on peut en douter.
Mais je pense que, en l'espèce, on a une obligation de résultat. Parce que là où je suis totalement d'accord avec Marc Reiss, c'est que si ce sentiment d'impunité perdure, à mon avis, il a deux résultats. Un, c'est que vous affichez tous les jours ou toutes les semaines l'impuissance de l'État. Et c'est terrible parce que les citoyens, la première chose qu'ils demandent à l'État, c'est de les protéger et à la justice. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ça contribue significativement à augmenter le niveau de violence dans la société. Et nous n'aurions peut-être pas eu autant de violence dans les dernières manifestations si aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous ne pouviez pas, de manière totalement impunément, insulter, injurier, menacer de mort, etc., etc. Donc, ce que j'entends dans les propos, et je pense que je peux vous assurer que le gouvernement, c'est extrêmement important pour lui, c'est qu'on a une obligation de résultat. On a une obligation de résultat parce que, je l'ai dit, c'est la mission première de l'État de protéger ses citoyens. Donc, j'entends la question sur les juridictions régionales versus la juridiction nationale. Je pense que l'important, c'est que ce soit jugé vite. Parce que là, encore une fois, si on vous insulte et que le jugement est un an et demi plus tard avec une relaxe ou un rappel à la loi, d'abord, ça n'a plus du tout la version... Ce n'est plus du tout éducatif pour la personne qui a été l'auteur des commentaires. Et puis pour la victime, c'est vraiment beaucoup trop tard.
Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que là, on est déjà parti au niveau de la justice, mais le texte qui a été adopté en première lecture cet après-midi, il prend les choses à la base, c'est-à-dire quand des contenus appelant à la haine sont mis sur Internet. Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer tout simplement le principe de ce texte, qui est d'obliger les plateformes et les moteurs de recherche à retirer les contenus manifestement illicites? C'est ça le principe, Marc Reiss? C'est ce que vous avez compris, vous aussi?
Le texte a évolué au fil des débats. Lors de son dépôt par la députée LREM Laetitia Alvia, le 20 mars 2019, il était effectivement centré contre les contenus dits haineux, discrimination raciale, injures raciales, etc. Donc, le champ d'application du texte était en pleine harmonie avec le titre de la loi, en gestation. Sauf que, en commission des lois, qui est là pour travailler le texte en vue de son adoption en séance, une modification d'ampleur a été effectuée afin d'étendre la liste des infractions soumises à cette obligation de retrait. J'y reviens donc. Le texte en question, qui a été voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, prévoit deux obligations principales. Une obligation de résultat pour les plateformes, Facebook, YouTube, etc., Twitter... une obligation de retrait pour les plateformes de contenu se rattachant à cette liste d'infractions pénales.
C'est une liste un peu vaste, désormais.
C'est une liste extrêmement vaste, puisque au-delà de l'injure, on trouve également de la pédopornographie, qui faisait déjà l'objet de mesures pénales. On trouve également l'apologie du terrorisme, qui faisait également l'objet de mesures pénales. Mais aussi, on a des éléments qui sont un peu plus compliqués à gérer. Je pense en particulier la violence accessible aux mineurs. Hey. une violence accessible aux mineurs. Je sais pas, par exemple, moi, quand j'ai lu ça, par exemple, mon premier réflexe a été de penser à ce journaliste qui fait un travail formidable, David Dufresne, qui empile des vidéos de manifestations où il y a des faits de violence.
Les violences à l'occasion policières.
Est-ce que là, on n'a pas des violences qui sont accessibles aux mineurs? Est-ce que demain, on ne va pas demander à Twitter retire ses contenus parce qu'ils sont accessibles aux mineurs, ils sont violents, et donc on efface? Je sais pas. Et le problème aussi dans ce bas monde, c'est que c'est pas parce qu'on éteint la radio, la télévision, que malheureusement les guerres s'arrêtent. Donc, il y a des débats qui sont assez lourds quand même.
Maître Morin, sur le contenu justement, sur ces contenus haineux, sur ce champ d'application, qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes avocat ?
Dans le projet de loi, enfin dans la loi qui a été votée, on vient de dire que ce sont des contenus haineux manifestement illicites. C'est-à-dire qu'on utilise une dénomination civile qu'on attache au trouble manifestement illicite. On dit pas illégal, on dit pas pénalement répréhensible. Et puis ensuite, on met une grande liste à la Prévert avec des infractions pénales. On en a et on a échappé à certaines lors des débats. Mais lorsqu'on regarde la jurisprudence, même nos juges qui sont spécialisés en la matière ont du mal à définir quel contenu est une incitation à la haine ou pas. Parfois, M. Soral est condamné en première instance, puis relaxé en appel. Parfois, c'est l'inverse. Il y a des décisions contradictoires. Et dans ce projet, on va faire fi du juge. On va dire aux plateformes, bah, écoutez, soyez effectivement jugés partis, comme vous l'avez rappelé au début de votre émission. Et puis, on va instaurer le CSA, qui va, lui, avoir des pouvoirs d'enquête. Et on va instaurer finalement un double cursus, à la fois le cursus judiciaire et la voie judiciaire et une voie administrative, comme si on créait une nouvelle COB ou l'ancêtre de l'AMF qui va donner des sanctions. Ça me paraît être compliqué comme système. J'ai eu du mal à en voir les contours. Maintenant, c'est encore soumis à la discussion.
Cédric Haut, puis surtout, c'est compliqué de définir. Et puis en plus, on va demander aux plateformes de décider vite, hein, si j'ai bien compris. C'est dans les 24 heures qu'il faut prendre sa décision maximum.
Alors, la question qui est posée, et qui à mon avis est essentielle dans le débat, c'est celle de comment on trouve un équilibre entre la liberté d'expression et la protection. Et je pense qu'elle est absolument fondamentale et qu'on doit s'y arrêter quelques instants. D'abord sur le champ, d'abord, si on rentre un petit peu dans la question du juridisme, manifestement illicite, c'est le Conseil constitutionnel qui prononce ce terme dans, je crois, son commentaire de l'application de la LCEN. Ensuite, sur le champ d'application, le champ est assez large. En fait, il se réfère à un champ d'application qui est très connu par la justice, qui est celui de la LCEN et de la loi de 81, donc, dont on ne déborde pas. Donc c'est un champ qui est connu. Je pose d'abord ces éléments, mais c'est important de dire qu'on n'est pas parti dans une liste à la Prévert totalement inconnue et totalement...
On a juste dit que c'était assez large.
C'est large, mais c'est connu par la justice et c'est déjà ce qui est en vigueur. Première chose. La deuxième chose, c'est de dire que ce qui est vrai, c'est que la seule habilité à décider de ce qui est légal ou illégal, c'est la justice. In fine, c'est elle qui jugera. Elle pourra d'ailleurs déjuger les instruments qu'on met en place. Maintenant, on a un problème.
Enfin, le CSA peut très bien dire à une plateforme, ouais, vous n'avez pas censuré et vous êtes passible d'une peine.
Je viens au sujet. Pas contenu par contenu. Le CSA n'intervient pas contenu par contenu. Le sujet, c'est celui de la temporalité et vous dites, et là, on a un problème efficacité. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la vidéo de Christchurch, dans les 24 heures qui ont suivi, elle a été postée et retirée par Facebook 1 500 000 fois. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que la justice, elle ne peut pas passer 1 500 000 fois entre le moment où la vidéo est postée et 24 heures plus tard. Ce serait d'ailleurs mauvais pour elle qu'elle se prononce au fil de l'eau, je pense, parce que ça amènerait à se déjuger, ça poserait un problème pour la justice. Donc, ce qu'on dit, c'est que les plateformes doivent se doter d'un système interne de modération qui est à la hauteur de l'enjeu et équilibré sous le regard du CSA. C'est-à-dire qu'elles ne jugent pas contenu par contenu, mais elles doivent se doter d'un système de modération qui est efficace. On sait très bien qu'elles ne pourront pas tout laisser passer, mais elles doivent être efficaces. Pour les aider, on mettra en place un groupe de contact entre le CSA, les magistrats, l'administration, les réseaux sociaux, pour faire en sorte qu'elles aient un certain nombre d'indications qui les aident à faire leur choix. Dernière chose, elles devront avoir une approche équilibrée, c'est spécifié dans la loi, c'est ce à quoi le CSA veillera, et elles devront se doter de moyens de faire appel des jugements et d'informer des gens dont les contenus ont été retirés. J'ai bien conscience que le problème, la ligne de crête, elle est compliquée à trouver. Mais je pense qu'on a quand même une obligation de résultat, c'est que le cyberharcèlement, la haine en ligne, in fine, ça finit souvent par des drames. On a vu qu'une jeune fille s'est suicidée il y a quelques mois. Et donc, il faut trouver une ligne de crête entre liberté d'expression et protection. Je pense qu'on l'a. Elle est discutable, les choses pourront toujours être améliorées, mais en tout cas, je pense qu'on pose une base efficace.
On va repartir au standard de France Inter. Cette fois, c'est Florent qui nous appelle de Paris et qui a une question à vous poser, messieurs. Bonsoir, Florent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir, donc j'ai une question pour le monsieur le ministre Haut.
Bonsoir.
Bonsoir. Si aujourd'hui j'écris sur un réseau social en ligne, de manière publique, il faut botter le cul de monsieur Macron.
Il y a l'effort, là, Florent.
Ce n'est pas illégal.
Non, non, mais c'est une question. Est-ce que c'est légal ou illégal pour vous?
Ce n'est pas illégal.
Cédric Haut.
Non, c'est vulgaire, mais pas illégal.
Maître Morin.
D'accord, ça peut être vulgaire. Non, mais c'est intéressant parce que, en l'occurrence, mon compte a été signalé il y a 4 mois et ça a été considéré comme légal. Donc, la question, c'est, ok, donc c'est illégal, mais si je suis signalé dans 5-6 mois, en ayant mis le même message sur ce réseau social, je serai signalé et forcément, je serai retiré.
Non.
Et je deviendrai donc illégal.
Alors, Cédric, et puis ensuite, Maître Morin.
Je vous arrête tout de suite. Vous ne serez pas, si vous êtes signalé, vous ne serez pas retiré. Par contre, si vous écrivez, il faut couper la gorge de Monsieur Macron, en l'espèce, vous êtes passible d'aller devant la justice et vous pourrez être retiré. Le but n'est pas. Le but, juste. Vous dites une chose très intéressante, c'est que aujourd'hui, il faut parler de la situation actuelle. Les plateformes retirent selon leur bon vouloir
et
selon leurs règles. Exactement.
Et donc, aujourd'hui, la plateforme m'a signalé qu'elle tenait compte de la loi française.
Mais si elle le veut, si elle le veut, comme elle le veut.
Oui.
La plupart du temps, d'ailleurs, elle n'en tient pas totalement compte, puisque si vous regardez sur Twitter, il y a beaucoup. D'abord, ça se saurait si elle tenait compte de la loi française systématiquement. Et ensuite, si vous regardez sur Twitter, je pense qu'il vous faut 2 minutes pour trouver des insultes qui sont ou des injures ou des menaces de mort qui sont pas manifestement illicites, qui sont totalement illicites et condamnables par la loi.
Je voudrais qu'on écoute Maître Morin sur ce sujet.
Oui, alors quand on prend comme exemple la vidéo de Christchurch, forcément, il y a une unanimité. La ligne de crête dont parle Monsieur le Ministre, elle est quand même compliquée. Moi, je rappelle que la liberté d'expression, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit, vaut non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent, qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. C'est notre droit positif. Et l'appréciation qui sera faite sans considération ni d'un contexte, ni d'insinuation, par quelqu'un au bout de la plateforme qui va dire « cette image est choquante » ou « cette idée l'est ou ne l'est pas », ne va pas être l'application du droit positif. Lorsque l'auditeur dit « mon contenu a été déclaré légal », non, ou illégal, il a été déclaré conforme aux règles de Twitter, ou non conforme aux règles de Twitter. Ça n'a strictement rien à voir avec la loi, et encore moins avec la loi française.
C'est donc les plateformes qui restent maîtresses en la matière, Marc Reiss.
Oui, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cédric Haut, c'est lorsque vous me dites que c'est le juge qui décide si c'est licite ou illicite. Certes, en théorie, pure théorie juridique, c'est incontestable. Mais en pratique, cette loi, elle aboutit à quoi? Les plateformes auront 24 heures pour supprimer une série de contenus se rattachant des infractions au champ plus ou moins flou. Et on leur dit, si vous ne retirez pas, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1,25 million d'euros.
Du chiffre d'affaires, c'est ça?
Non, 1,25 million d'euros.
Non, 250 000 euros.
C'est x5 pour les personnes morales. Donc le fait est que moi, Twitter-like, je reçois une notification me disant tel contenu posté par telle personne est particulièrement haineux, etc. Bon, moi, j'en reçois des milliers, peut-être par jour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le parapluie. Et ma première réaction, ça sera d'utiliser le coup de ciseau, parce que ainsi, j'éviterai, à coup sûr, la sanction pénale qui est derrière. Et c'est là où est la problématique. Et le souci de ce texte, c'est que finalement, il vient générer un transfert de pouvoir régalien, celui de juger, de dire ce qui est licite ou illicite, sur les épaules des intermédiaires techniques, le tout en leur mettant un pistolet sur la tempe. Et je trouve que ça fait un petit peu beaucoup.
Il y a un risque de sur-censure, Cédric, au bout du bout dans cette affaire.
C'est la crainte d'un bon nombre de commentateurs. Je n'ai pas ces mêmes craintes. D'abord parce que En fait, il y a un débat un peu technique entre Marc-Christ et moi sur article 1, article 4. C'est-à-dire que nous, on considère que le cœur de la loi, c'est l'obligation systémique. C'est-à-dire l'obligation de mettre en place des systèmes de modération efficaces et pas contenu par contenu. Parce que, juste fais un petit appendice, mais contenu par contenu, la loi postule déjà que vous êtes passible de 1 an de prison si vous ne retirez pas promptement des contenus manifestement illicites. Bon, vraisemblablement, ça ne les a pas conduits à changer de comportement. Et vous en trouvez des millions, des contenus illicites. Donc, l'épée de Damoclès, c'est la sanction qui dit que si vous n'avez pas un système de modération efficace, vous pouvez encourir jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires. Et c'est là c'est ce qui fait vraiment peur aux réseaux sociaux. Mais là, c'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Et donc, on ne juge pas contenu par contenu. Et jamais le CSA ne se prononcera contenu par contenu. Et dans la discussion que nous avons eue avec les réseaux sociaux, je pense que nous tenons quelque chose qui permet de tenir la ligne de crête. Il faudra le vérifier dans l'application, mais le CSA devra s'assurer de l'application mesurée de la loi, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de crête à trouver et on ne peut pas non plus être dans la surcensure.
Marc Ress.
Effectivement, les principes, enfin, cette logique préexistait dans une loi de 2004. Mais là, on a injecté beaucoup de testostérone un peu partout pour faire en sorte d'avoir un système particulièrement musclé. Et c'est d'autant plus vrai que la plateforme aura non seulement l'obligation de retirer les contenus se rattachant à ces infractions, mais en plus, empêcher la réapparition d'un contenu qui a été retiré. Ce qui veut dire par là, c'est que si moi, organe de presse, je cite des propos particulièrement haineux pour les dénoncer, pour expliquer qu'il y a eu tel procès, telle décision de justice, telle... Voilà.
Vous serez pas cible.
Que vont faire les intermédiaires techniques? Est-ce qu'ils sauront faire une contextualisation, comme Eric le signalait, ou est-ce qu'ils vont y aller à la faux? Je ne sais pas.
L'exemple allemand dont s'est inspiré ce projet de loi démontre le contraire. Moi, je souhaite que ça fonctionne. Mais il y a eu une étude récente qui a montré que, à la suite du vote de la loi sur la haine sur Internet en 2017 par les Allemands, les Allemands interrogés considèrent aujourd'hui qu'ils sont limités dans leur liberté d'expression, qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de sujets tabous, et il y a eu quelques exemples que cite une étude récente, de personnes qui ont été traduites devant les tribunaux pour une question de débat. Alors, on peut pas toujours prendre l'extrême, parce que la haine, on voit bien ce que c'est, mais les contenus manifestement illicites, avec une obligation de résultat en 24 heures pour les supprimer, c'est peut-être aussi amputer le débat légitime sur des questions qui sont manifestement pas des questions haineuses, mais qui sont des questions de société sur lesquelles le oui et le non doivent pouvoir s'entendre.
Et c'est des questions effectivement qui méritent d'être posées. Cédric, je vous redonnerai la parole dans un instant, mais on part en Sologne cette fois. C'est Christian qui est au bout du fil. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, moi j'aimerais savoir que se passe-t-il lorsque les internautes ont un VPN, excusez-moi, j'ai la voix un peu prise. Je me permets de donner deux explications pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est un petit programme qui peuvent être gratuits ou vendus par les sociétés qui vendent des antivirus. Ça s'installe en deux coups de cuillère à peau. Ça coûte l'abonnement quelques dizaines d'euros par an. Donc c'est très bon marché. Et ça permet d'avoir une émission, on appuie juste sur une touche et on peut être situé en Australie, en Chine, au Japon, n'importe où dans le monde, à sa convenance. Et là, on est impossible à repérer. Moi, j'en ai un, par exemple, sur mon ordinateur.
Ah
alors,
bon,
je m'appelle Christian Bachet, j'habite Marcy-en-Villette, en Sologne. C'est pas pour me cacher, c'est pour éviter d'être pisté par la réclame, en plus des bloqueurs de réclame. Mais imaginons un malfaisant qui est ça, qui insulte, qui diffame, qui donne des conseils, bref. Comment pouvoir mettre ces nuisibles hors d'état de nuire s'ils ont un VPN sur leur ordinateur?
Merci Christian pour cette question. On a bien compris que c'était théorique dans votre cas. C'est poser la question d'une manière générale. Qui veut répondre, Marc Ress?
Quel que soit le système qu'on mettra en place, quel que soit le système qui sera voté, on n'arrivera jamais à une efficacité à 100%. Peu importe la volonté du législateur, il y aura toujours des petits poissons qui passeront entre les gouttes.
Cédric.
Non mais je répète ce que je disais tout à l'heure, le but c'est pas d'aller chercher les gens qui volontairement se cachent, dissimulent, partent à l'étranger pour faire de la haine en ligne. Le but c'est de faire baisser le niveau global de haine en ligne, et pour cela, il faut d'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, que la justice soit capable d'aller chercher les gens. Vous vous rendez compte qu'il y a très peu de jugements pour haine en ligne, mais quasiment à chaque fois qu'il y a un jugement pour injure, menace de mort, les gens qui sont accusés sont étonnés de se retrouver devant la justice
oui.
pour avoir menacé de mort quelqu'un ou avoir menacé de mort ses enfants, sa mère, etc. Donc, première chose, c'est qu'il faut que tout le monde prenne conscience que c'est interdit, que c'est illégal et que quand vous insultez quelqu'un, vous risquez de vous retrouver devant la justice. Ensuite, il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, qui vont utiliser des VPN. Ça, cette loi ne les concerne pas, je le dis tout de suite. Là, on parle de gens qui le font délibérément, c'est du grand banditisme ou en tout cas du banditisme organisé. Il faudra utiliser d'autres moyens. Le but, c'est de faire baisser le niveau global de violence dans la société.
Ce que disait Maître Morin il y a une seconde, c'est qu'il prenait le cas de l'Allemagne, il y a peut-être une forme d'autocensure hein, qui se met en place doucement.
Alors là avec où ce je genre ne suis pas d'accord avec Maître Morin, c'est que le cœur de la loi allemande, c'est le contenu par contenu, puisque c'est 50 millions d'euros par contenu qui passe la barre. Le cœur de la loi française, c'est l'obligation. Et la peine la plus dure, elle pèse sur l'obligation de moyens, qui est les 4% du chiffre d'affaires. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Maître Morin sur la comparaison de la loi française avec la loi allemande. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que la loi allemande n'a pas fait totalement la preuve de son inefficacité. Mais je veux juste rajouter un truc. Le but du gouvernement, ce n'est pas d'éviter les critiques du président Macron. Il faut que les gens puissent critiquer durement le président Macron. Le but du gouvernement, ce n'est pas de censurer la presse. Et ni le débat politique, il faut que, si Marine Le Pen tweet une vidéo de l'État islamique, effectivement ça pose question. Et il faut que le débat puisse avoir lieu, et le but c'est de pas de censurer ça. Le but c'est de faire baisser le niveau global de la violence de la société. Pardon, je finis un élément. Je pense quand même, au bout du bout, qu'on a une obligation de résultat. Parce que si on s'abrite systématiquement derrière la liberté d'expression, alors in fine on accepte la fin de l'histoire qui est que, il y a un certain nombre de drames qui se déroulent.
On va prendre un dernier appel, c'est Abraham, il est à Caen, bonsoir à vous. Abraham,
oui,
êtes-vous
bonsoir.
Là oui, on vous écoute.
Oui, je suis là, bonsoir. Écoutez, je suis très sensible à ce sujet, comme beaucoup de monde, mais peut-être pas pour les mêmes motifs. Je voudrais juste faire une petite parenthèse à propos de la justice et de la lutte contre la haine.
Une petite parenthèse, parce qu'il est déjà 19h54, si c'est possible.
D'accord. Alors, Alain Soral a été condamné 2 fois, notamment de la prison ferme, et il est toujours en liberté. Je ferme la parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne la lutte contre la haine, moi, ce que je crains, c'est que ce soit aussi un frein à la liberté de penser. Parce que si moi, j'ai envie de créer mon site à l'éloge du blasphème, on va m'accuser d'islamophobie, de christianophobie, voire d'antisémitisme. Et quelque part, moi, je ne vois pas la fin de cette bonne intention, parce que ça me fait penser au roman d'Orwell, 1984, où il y avait le quart d'heure de la haine. Et là, je crois que c'est plutôt le quart d'heure de la bonne conscience et de l'impuissance. Voilà.
Merci, Abraham, pour toutes ces remarques, Marc Ress.
J'entends bien, et je voulais réagir là encore au propos de Cédric O. Sur le fait qu'il y a quand même parfois des comportements un peu étranges, et j'ai souvenir, puisque c'est moi qui avais sorti l'actualité en question, que l'OCLCTIC, qui est l'Office central de lutte contre la criminalité et technologie de l'information, avait réclamé de Google+, une espèce de réseau social qui aujourd'hui est désactivé, le retrait d'un photomontage d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Christophe Castaner, grimé en Pinochet, en dictateur. Bon, après, on peut apprécier ou ne pas apprécier, peu importe. Mais on voit quand même qu'il y a une tentation de reprendre un contrôle sur l'image, en l'occurrence de l'exécutif. Et je ne sais pas quels vont être finalement les débordements demain de l'application de cette loi. Et je crains, comme cet auditeur, des abus extrêmement préjudiciables pour la liberté d'expression. Sachant qu'évidemment, il faut lutter contre la haine, il n'y a pas de souci.
Et vous n'êtes pas le seul à avoir ce genre de crainte. Hein, le Conseil national des barreaux, le Conseil national du numérique, beaucoup de gens ont fait part de leur inquiétude, certains politiques aussi. Cédric O, c'est une réalité. Maître Morin, vous vouliez rajouter un mot à ce sujet ?
Non, mais à ce sujet, non, mais il y a cette histoire des 4% du chiffre d'affaires. J'ai pas bien compris comment concrètement on allait le faire. On va envoyer une lettre commandée pour leur demander de payer. On va le saisir comment ? Et ça, je l'ai pas vu parce que ça va commencer à faire, si jamais c'est vraiment appliqué, ça va commencer à faire beaucoup d'argent avec aujourd'hui un problème à la fois national et transnational. Et cette idée de sanction qui serait prononcée par le CSA me paraît difficile à mettre en œuvre. Mais alors je suis preneur de toutes les explications.
Ça existe dans d'autres domaines que l'ARCEP. C'est-à-dire que si vous avez une obligation de couverture du territoire d'un certain nombre d'opérateurs, s'ils ne le font pas, l'ARCEP les met en demeure. S'ils ne s'exécutent pas, l'ARCEP prononce une peine qui peut être proportionnelle à ce qu'elle estime être la faute commise.
Qui sont des entreprises françaises.
Oui, mais dès lors que c'est des questions de justice, même les GAFA y payent. Je n'ai jamais vu ne pas exécuter une décision de justice.
En tout cas, ce texte pose la question effectivement du champ d'application de la loi, parce que c'est un texte franco-français pour l'instant, vous avez raison Éric Morin de le dire. Après, il y a la question des moyens du CSA, moyens même des opérateurs, parce qu'il faut combien de modérateurs pour aller surveiller tout ce qui se passe. Bon, a priori, ils sont déjà censés le faire.
Google a 10 000 modérateurs, je crois. 10
Facebook 30 000.
Et Facebook 30 000, ouais. À l'échelle de la planète. Donc, vous imaginez la propagation de cette loi dans d'autres pays, pourquoi pas tous les pays de la planète.
Il va falloir des polyglottes aussi.
Forcément, oui, clairement, ça pose problème. La barrière de la langue, la contextualisation, enfin tout ça, c'est une analyse qui normalement en justice, lorsqu'il y a un dossier qui est traité avec les moyens adéquats, prend du temps et exige une mise en balance des intérêts en présence. Là, on a un chrono, c'est 24 heures.
Merci mille fois à tous les trois. Merci Cédrico. Vous voyez que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Tout le monde a envie que ça fonctionne, mais c'est pas aussi simple quand on regarde la mise en application. On aura l'occasion d'en reparler. Le texte arrivera au Sénat à l'automne. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Cédric O, Maître Éric Morin et Marc Ress. Merci à tous les trois. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Pierre Dessertaine, Emma Ferret, Mathilde Sour, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Antoine Gomez, Jérémy Guyon.